Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus à écouter nos cours d'histoire et je suis très heureux de recevoir à ce micro, de retrouver Dimitri Tillois d'Ambrosie. Dimitri, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de Storia Voce. Vous êtes l'auteur de L'Empire romain par le menu, paru chez Arche Éditions, une émission que nous avons enregistrée ensemble sur le sujet que nos auditeurs peuvent retrouver dans nos archives. Nous avons aussi enregistré une série de cours d'histoire consacrés au pouvoir impérial, à l'organisation de l'Empire et à la table claudienne. Nos auditeurs peuvent également retrouver ces cours d'histoire. Vous êtes professeur en lycée et doctorant à Lyon 3. Et vous êtes venu nous parler pour une nouvelle série d'un sujet extrêmement important qu'est la citoyenneté romaine, donc un triptyque, devenir et être citoyen romain, l'édit de Caracalla et enfin qu'est-ce que la romanité. Première partie donc de cette série, devenir et être citoyen romain. Quelles étaient, Dimitri, les différentes façons pour devenir citoyen et qui pouvait le devenir?
Contrairement à la citoyenneté athénienne, on va le voir, la citoyenneté romaine est beaucoup plus accessible, elle est distribuée plus largement, et d'ailleurs hein, certains auteurs antiques le disent. Le principal moyen, c'est la naissance, c'est devenir citoyen par hérédité, parce que le père est citoyen et parce qu'on est libre aussi, ce qui est un critère évidemment important. Concernant le nombre de citoyens sous l'Empire, si on se place au début de l'Empire, le nombre de citoyens varie entre 4 et 5 millions. Alors, on est assez bien renseigné sur le nombre de citoyens et sur les conditions également d'accès à la citoyenneté grâce aux différents recensements qui ont été faits par l'Empire romain. Autre façon de devenir citoyen, c'est l'affranchissement. Un affranchi peut devenir citoyen, mais attention, ses droits politiques seront limités. Il ne pourra pas, par exemple, être élu magistrat s'il est affranchi. Par contre, son fils sera considéré comme un homme né libre, et donc lui pourra avoir la citoyenneté romaine de plein droit. Autre moyen d'obtenir la citoyenneté, c'est le service dans l'armée. Il faut distinguer deux corps d'armée principaux chez les Romains. Les légionnaires, qui eux sont des citoyens romains, qui servent 20 ans à partir d'Auguste, et de l'autre côté, on a les auxiliaires, qui, à partir de Claude, c'est sous le règne de cet empereur que le règlement se fixe, servent 25 ans, et les pérégrins qui ont servi donc 25 ans chez les auxiliaires peuvent devenir, à l'issue de leur service, citoyens romains, et leurs descendants le seront également. Parfois, un individu qui a rendu de grands services à l'Empire peut aussi devenir citoyen. Et donc là, c'est l'empereur lui-même, et on peut dire que l'empereur est en quelque sorte le maître de la citoyenneté sous l'Empire. C'est lui qui décide de la donner à un individu ou à des communautés. Donc pour des individus, on peut citer l'exemple assez célèbre de Flavius Joseph, qui s'est vu accorder la citoyenneté romaine par Vespasien à l'issue de la guerre de Rome contre les Juifs, puisque Flavius Joseph a aidé les Romains durant cette guerre. Et donc c'est une forme de remerciement que d'avoir obtenu cette citoyenneté. Parfois ce sont des communautés tout entières qui obtiennent la citoyenneté romaine, des cités, voire des provinces par exemple. En Espagne, les provinciaux se voient accorder la citoyenneté par Vespasien. Et donc on voit que l'action du pouvoir est tout de même assez importante.
Au début de votre propos, vous avez distingué la citoyenneté telle qu'elle était conçue dans le monde grec, antique, classique, de la citoyenneté romaine. Est-ce que le mot citoyen romain est comparable à notre mot de citoyenneté tel qu'on le conçoit dans notre France du XXIe siècle ?
Alors pour les Romains, le citoyen appartient à une communauté. Et ce qui est important, c'est que l'intérêt commun dépasse l'intérêt individuel. Et là, peut-être qu'il y a une nuance par rapport aux conceptions actuelles, dans le sens où l'intérêt du plus grand nombre prime sur l'intérêt de l'individu.
Donc il y a un sentiment communautaire qui était plus prégnant à l'époque qu'aujourd'hui.
Oui, qui est très fort. Alors, on le retrouve chez les Grecs aussi d'ailleurs, chez les Athéniens. L'appartenance à la communauté, on peut le retrouver chez les écrits des philosophes, par exemple, qui l'affirment, mais on va le retrouver chez les Romains également, l'appartenance à la communauté est absolument fondamentale. Mmh. On le retrouve par exemple dans les structures civiques de vote, au sein des comices, on vote également donc, par rapport au groupe auquel on appartient, par exemple la tribu, la centurie, etc.
Quels sont les rites qui marquent l'accès à la citoyenneté romaine?
Alors, l'accès à la citoyenneté se marque tout d'abord par l'inscription dans une tribu. Alors attention, il ne s'agit pas d'une tribu au sens ethnique, hein, il s'agit d'une tribu au sens politique et électoral du terme. Ce sont des groupes de citoyens, chaque tribu porte un nom, la tribu Galeria, Sergia par exemple, et qui indique donc qu'on appartient au corps des citoyens romains. On devient citoyen de plein droit lorsque l'on devient adulte. Chez les Romains, le passage à l'âge adulte se fait autour de 16-17 ans. À ce moment-là, le jeune reçoit la toge virile. Il quitte la toge prétexte, qui est le vêtement de l'enfance, pour vêtir donc la toge virile, qui est le vêtement de l'adulte. De même, il abandonne ses jouets, il abandonne également la bulle, qui est une forme d'amulette en quelque sorte, qui porte autour du cou et qui marque son appartenance à l'âge de l'enfance. Et également, se déroule la cérémonie de la depositio barbae, qui est le premier rasage, et en fait qui est une cérémonie importante qui marque l'accès donc à l'âge adulte. De même, le citoyen romain se distingue par le port des tria nomina. Ce sont les trois noms typiques du citoyen romain, donc le prénom, le nom de famille et le surnom, qui sert vraiment à individualiser le citoyen. Si c'est un citoyen qui a été affranchi, donc un ancien esclave, et qui obtient la citoyenneté, il portera le nom du maître. Si c'est l'empereur qui donne la citoyenneté, eh bien le citoyen portera le nom de famille de l'empereur. Mmh. Par exemple Flavius, Aelius, etc. Mmh. Et donc, pour poursuivre sur les rites qui marquent la citoyenneté, évidemment, un des rites importants, c'est le vote. Même si, et ça c'est fondamental, sous l'Empire, le vote, les élections ont peu d'importance, même si les assemblées du peuple existent, c'est l'empereur qui est le maître de la vie politique, qui contrôle les magistratures. Mais en tout cas, le vote est un moment important de la vie civique, il est représenté sur certains reliefs, on pense par exemple à l'hôtel de Domitius Enobarbus, qui est conservé au musée du Louvre, qui est une représentation très précise du vote, des différents gestes, des différents rites qui l'accompagnent. Et le port des vêtements, également, marque l'appartenance à la citoyenneté. La toge, c'est le vêtement du citoyen par excellence. C'est le vêtement que l'on affiche dans les cérémonies publiques, religieuses par exemple, ou privées pour un mariage. C'est le vêtement qu'on porte lors des réunions politiques. Mais ce vêtement peut être différent pour les sénateurs, puisque les sénateurs vont porter ce que l'on appelle la toge laticlave, avec une bande pourpre assez large, ou angusticlave, une bande pourpre étroite pour les chevaliers. Donc on voit vraiment qu'il y a un ensemble de rites, de symboles également, qui marquent vraiment l'appartenance au corps des citoyens et à ses différentes composantes.
Alors, en dehors de ces signes extérieurs, quels sont les droits d'un citoyen romain?
La question des droits est importante, puisque le citoyen, c'est avant tout quelqu'un de privilégié dans le monde romain. Alors, ces droits sont de nature diverse, ils sont politiques, mais on l'a vu, l'aspect politique est moins important sous l'Empire, puisque le vote a moins de sens, a moins de portée que sous la République, évidemment. Par contre, les privilèges juridiques, économiques, fiscaux, eux sont assez importants. Alors, le citoyen peut posséder des terres. Le citoyen peut également acheter, vendre des terrains. Il peut intenter une action devant un tribunal. Également, ce qui est important, c'est que son mariage sera reconnu comme légal aux yeux du droit romain, comme légitime. Il peut également demander donc l'assistance du tribun de la plèbe, qui est donc un magistrat qui aide les simples citoyens, qui les défend, qui défend leurs intérêts, ou bien même faire appel d'un procès. Alors, sous la République, on fait appel d'un procès devant les comices et devant les magistrats, mais à l'époque impériale, et là c'est un immense privilège, on fait appel directement devant l'empereur. Par exemple, Saint Paul, qui est citoyen romain, eh bien, a le privilège de faire appel directement devant l'empereur.
Et c'est aussi pour cette raison qu'il est décapité,
oui, tout à fait, ouais.
Et non pas, oui. Non pas crucifié.
Voilà, donc certaines mesures s'appliquent aux citoyens dans le cadre d'un procès. Les citoyens n'ont pas le droit d'être torturés avant d'être jugés. Et donc c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les Actes des Apôtres, quand Saint Paul dit qu'il est citoyen romain, les autorités romaines qui sont en train de le torturer prennent peur, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, puisqu'il s'agit d'un citoyen romain. Et donc en effet, s'il est décapité et non crucifié, c'est parce qu'il s'agit d'un privilège, entre guillemets, réservé donc aux citoyens.
Et c'est pour cette raison qu'on le représente avec une épée, et non pas, cette épée n'est pas là pour une quelconque volonté guerrière. Il y a des droits, mais nous sommes aussi dans un monde d'obligations. Quelles sont les obligations du citoyen romain?
Donc en effet, on l'a dit, il y a des avantages, mais des obligations. Et dans les mentalités antiques, être citoyen, appartenir à une communauté, c'est bénéficier des avantages que ça procure, mais en même temps, il faut en accepter les obligations. Par contre, il faut qu'il y ait évidemment plus d'avantages que d'obligations pour que ce soit acceptable. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un trait important des mentalités de l'époque. Alors, parmi les obligations, si on se place à l'époque du Haut Empire, il y a l'obligation de payer certaines taxes. Il n'y a pas d'impôt direct pour les citoyens à l'époque du Haut Empire, mais il y a des taxes indirectes, et notamment l'impôt sur la succession. C'est le principal impôt que paient les citoyens romains. Parmi les droits du citoyen, il y a le droit de rédiger un testament, mais la contrepartie, c'est qu'il faut verser à l'État entre 5 et 10% à peu près du montant de l'héritage à l'État, ce qui est une rentrée d'argent absolument considérable, et on le verra, c'est un enjeu d'ailleurs de l'édit de Caracalla. Ensuite, le service militaire pourrait être perçu comme une obligation, sauf que sous l'Empire, sous le Haut Empire, le service militaire n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une armée de conscrits, c'est une armée professionnelle et de volontaires. Donc c'est même plus un privilège en quelque sorte, puisque le citoyen romain qui sert dans la Légion a une solde, une sorte de sécurité en quelque sorte, hein, qui lui assure finalement un minimum par rapport à son niveau de vie. Le citoyen romain également doit accepter les charges auxquelles il est élu, les charges auxquelles il a été nommé. Alors ça peut nous paraître un peu paradoxal, puisque évidemment accéder à une magistrature c'est quelque chose de prestigieux, sauf que c'est extrêmement coûteux. Dans les cités, certains citoyens se ruinent à cause des dépenses qu'ils vont faire, et ça amène à un autre point, c'est que le citoyen peut suivre le cursus honorum, c'est-à-dire une carrière, la carrière des honneurs. Il va suivre différentes magistratures qui vont se succéder. Par exemple, si un citoyen appartient à l'ordre sénatorial, il peut être questeur, ensuite édile, préteur et consul. Et au fil de ces magistratures, on attend toujours que le citoyen qui est élu magistrat agisse pour le bien de tous, et qu'il fasse même plus que ce qui est attendu. Et dans les cités, c'est pareil. Les magistrats civiques doivent aussi répondre à cette obligation. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme. Et donc, le citoyen doit mettre, le citoyen riche, hein, doit mettre sa fortune pour le bien, au service du bien du plus grand nombre. Donc ça peut être, par exemple, faire construire des bâtiments, les faire rénover, organiser des jeux, organiser des banquets, des fêtes, des distributions parfois de céréales. Donc il y a un sens de l'intérêt commun qui est quand même très fort et qui incombe au magistrat. C'est une forme d'obligation morale, en quelque sorte. Et enfin, le citoyen romain, mais là, c'est quelque chose de valable pour tous les habitants de l'Empire, évidemment, doit participer au culte impérial.
Quels sont, par opposition, ceux qui ne sont pas citoyens romains, qui sont les exclus de la citoyenneté?
Alors, les exclus de la citoyenneté dans le monde romain sont assez similaires aux exclus de la citoyenneté à Athènes, et on distingue en fait trois grandes catégories. Les femmes, mais là, il faut apporter une nuance tout de même assez importante. On peut parler de citoyenne. On peut parler de citoyenne dans le sens où, aux yeux du droit romain, elles sont considérées comme telles, mais sans droit. Sans droit politique, sans droit juridique, elles sont sous la dépendance de leur mari, évidemment. Mais en tout cas, elles enfantent des citoyens, elles donnent la citoyenneté, donc à ce titre, elles sont reconnues citoyennes, mais sans droit. On a ensuite, évidemment, les esclaves, qui, comme dans le monde grec, sont considérés comme des marchandises, comme des biens, finalement. Ils sont la propriété de leur maître, ils ne disposent pas d'autonomie, n'ont pas de personnalité propre, et donc, à ce titre, ils ne peuvent pas, évidemment, s'impliquer dans la vie politique. Enfin, les pérégrins. Donc les pérégrins, ce sont les étrangers à la citoyenneté romaine, ce sont des hommes libres, mais une précision, ils peuvent être citoyens de leur cité d'origine, citoyens d'Athènes, par exemple, citoyens d'Antioche, etc., mais ne pas avoir pour autant la citoyenneté romaine. A l'inverse, on peut aussi avoir deux citoyennetés. On peut être citoyen de sa cité d'origine, par exemple citoyen de Lyon, qui est une colonie, mais comme c'est une colonie de droit romain, eh bien on peut être également citoyen romain.
Merci beaucoup Dimitri. Il y a une autre dimension à cette citoyenneté que nous allons aborder dans un autre cours d'histoire. Il s'agira de l'édit de Caracalla qui va être une petite révolution dans l'histoire de l'Empire. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.